RFI 22h à Paris, 21h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. La Syrie annonce la fin de l'opération militaire contre les fidèles de Bachar al-Assad. Une opération marquée par des violences. Plus d'un millier de civils ont été tués, en grande majorité issus de la minorité religieuse alaouite. Théo Renaudon analysera en début de journal les réactions internationales à ces massacres. Les États de l'Union européenne affichent leur volonté de renforcer les capacités de défense du continent face au désengagement américain. C'est dans ce contexte qu'on apprend que les importations d'armes des États européens membres de l'OTAN ont plus que doublé ces 5 dernières années. À suivre l'analyse de Franck Alexandre. Quant à la Corée du Nord, le président Kim Jong-un a visité le chantier naval où serait construit le premier sous-marin nucléaire du pays. Celio Fioretti nous appellera de Séoul. En Syrie, les autorités annoncent la fin de l'opération militaire contre les fidèles de Bachar al-Assad. « Nos forces ont atteint tous les objectifs fixés », indique le ministère de la Défense. Une opération marquée par des violences, plus d'un millier de civils ont été tués. Des civils issus en grande partie de la minorité religieuse alaouite, victimes d'exécutions sommaires perpétrées par les forces de sécurité syriennes et leurs alliés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et selon les témoignages, des djihadistes étrangers ont participé aux exactions contre les civils. Côté diplomatique, les réactions internationales sont nombreuses. Londres condamne des tueries horribles et Washington demande aux autorités syriennes de poursuivre les auteurs des massacres. Personne à part Israël ne pointe directement du doigt le pouvoir en place, ce qui vient finalement asseoir sa légitimité comme seul interlocuteur à la tête de l'État syrien. Théo Renaudon.
Ahmad al-Shara, nouveau leader syrien, non coupable des massacres, mais doit poursuivre ses auteurs. La position de la plupart des chancelleries occidentales n'incrimine pas directement Damas et finalement assoit un peu plus le nouveau pouvoir en place, selon l'analyste de France 24, Wassim Nasr.
Même Rubio, donc ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain, on peut pas l'accuser de sympathie pour Ahmad al-Shara, ne l'a pas accusé. Mais l'a appelé à trouver et juger les coupables. Donc c'est un signe d'une compréhension, disons, de la situation, au-delà du bruit et de la désinformation sur les réseaux sociaux.
Reste que ce nouveau pouvoir est fragile, notamment à cause des sanctions économiques américaines.
Il reste à la communauté internationale de faciliter la tâche à ce nouveau pouvoir. Dans l'état actuel des choses, sans lever réel des sanctions, surtout de la part des Américains, même si les Européens ont fait beaucoup de choses, les Français étaient moteurs dans cela, mais juste à titre d'exemple, pour schématiser un petit peu, les Qataris veulent bien payer les salaires de l'administration syrienne. Sauf qu'ils sont dans l'incapacité de le faire à cause des sanctions américaines.
Le nouveau pouvoir syrien réclame la levée de ces sanctions depuis la chute de Bachar al-Assad.
Par ailleurs, ce soir, les médias officiels syriens rapportent plusieurs frappes aériennes israéliennes sur la province de Deraa, dans le sud du pays, sans plus de précision. Après la coupure par les Israéliens de l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore avec Gaza, l'autorité palestinienne dénonce une escalade dans le génocide des habitants de la bande de Gaza. Berlin parle d'un risque de pénurie alimentaire, l'ONU fait aussi part de son inquiétude. Sans électricité et avec le carburant bloqué, les dernières usines de dessalement d'eau, établissements de santé et boulangeries de Gaza risquent de fermer. Amnesty International condamne une décision cruelle et illégale. L'objectif du gouvernement israélien est de faire pression sur le Hamas, alors qu'une délégation israélienne est attendue ce lundi à Doha au Qatar pour des négociations sur la poursuite du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu à nouveau violé ce lundi. Israël a indiqué avoir encore procédé à des frappes aériennes dans la bande de Gaza. Volodymyr Zelensky est à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le président ukrainien doit rencontrer le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Demain, des responsables ukrainiens et américains vont se retrouver pour parler d'une fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Cette réunion sera la première depuis la visite catastrophique de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, où il avait été violemment pris à partie par le président Trump et son vice-président. En Arabie Saoudite, Kiev devrait proposer une trêve dans les airs et en mer avec Moscou, une idée jugée prometteuse par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui est lui aussi arrivé dans le pays. La Russie expulse deux diplomates britanniques qu'elle accuse d'espionnage. Ils ont 2 semaines pour quitter le territoire. Les affaires étrangères dénoncent des accusations malveillantes et infondées. Les relations entre Londres et Moscou sont très tendues depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens militaires et diplomatiques de l'Ukraine. Déjà, début février, Londres avait révoqué l'accréditation d'un diplomate russe après l'expulsion en novembre dernier d'un diplomate britannique par Moscou. Un rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, rapporte que les importations d'armes des États européens membres de l'OTAN ont plus que doublé ces 5 dernières années et qu'elles dépendent à plus de 60% de l'armement américain. Cet état des lieux intervient au moment où les États de l'Union européenne affichent leur volonté de renforcer les capacités de défense du continent face au désengagement américain annoncé par Donald Trump. Franck Alexandre.
Le CIPRI a retenu la période 2020-2024 et sur les 4 dernières années, les importations d'armes des États européens membres de l'OTAN ont bondi de 105% par rapport aux 4 années précédentes. Des importations qui reflètent toujours une très forte dépendance aux États-Unis qui ont fourni les 2/3 de ces armes. L'Europe est même devenue leur premier marché. Le vieux continent représente plus de 35% des activités des industriels américains devant le Proche-Orient. Pour preuve, les Européens ont commandé près de 500 avions de combat outre-Atlantique, en particulier des F-35, l'avion furtif de Lockheed Martin. Dans ce tableau de la dépendance, seule la France fait exception, note l'Institut de Stockholm. Paris a triplé ses exportations en Europe par rapport à la période 2015-2019, principalement grâce à la vente d'avions Rafale à la Grèce et la Croatie. Le Rafale, véritable moteur de l'industrie tricolore, qui a trouvé en Inde ses meilleurs débouchés. L'Inde, premier client de Paris, représente à elle seule 28% des exportations françaises, soit 2 fois plus que tous les autres États européens réunis.
Armement toujours, mais cette fois en Asie. Le régime nord-coréen a dévoilé les premières images de ce qui serait son premier sous-marin nucléaire. Le président Kim Jong-un a visité le chantier naval où est construit le navire qui pourrait radicalement changer le rapport de force dans la région. Correspondance, Celio Fioretti.
Sur les photos du chantier prises par les médias nord-coréens, Kim Jong-un apparaît tout sourire face à l'imposant navire. Entre 6 et 7 000 tonnes, d'après les estimations, ce sous-marin nucléaire pourrait emporter avec lui près de 10 missiles équipés de charges atomiques. Le régime nord-coréen n'a donné aucun détail concernant ce navire, mais l'acquisition d'un sous-marin nucléaire est un projet de longue date pour la Corée du Nord. Le régime possède déjà entre 70 et 90 sous-marins classiques. Le développement d'un sous-marin nucléaire lui permettrait une force de frappe plus importante et un déploiement plus au large. Kim Jong-un a justement indiqué que le lancement du sous-marin d'ici 1 à 2 ans ne se limiterait pas aux eaux territoriales nord-coréennes. Pour Séoul et Washington, il s'agit désormais d'anticiper ce nouveau rapport de force et de comprendre quelle aide le régime a-t-il obtenue pour développer ce sous-marin. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Ce matin, collision entre un pétrolier à l'ancrage, battant pavillon américain, et un cargo porte-conteneur appartenant à une entreprise allemande. Ça s'est passé en mer du Nord, au large des côtes du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Bilan, au moins 32 blessés, un incendie et un risque de marée noire. La ministre britannique des Transports a fait part de sa préoccupation et l'ONG Greenpeace a indiqué qu'elle suivait de très près les informations sur la collision. Il n'y a aucun lien entre vaccination et autisme. La littérature scientifique est claire sur le sujet. Pourtant, les autorités sanitaires américaines s'apprêtent à relancer une étude. Une annonce dénoncée par la communauté médicale et les associations de patients, car elle risque de donner du grain à moudre aux théories du complot sur le sujet, déjà nombreuses. Simon Rosé.
Le Centre de contrôle américain des maladies, le CDC, l'a déjà démontré et a publié plusieurs études sur le sujet « La vaccination ne favorise pas l'autisme ». C'est pourtant ce même CDC qui va enquêter à nouveau sur le sujet, à la demande du ministère de la Santé, ministère dirigé désormais par Robert Kennedy Jr., opposition anti-vaccination revendiquée. Une annonce qui désespère la communauté médicale qui fait face à une importante épidémie de rougeole au Texas et au Nouveau-Mexique, en raison notamment de la faible couverture vaccinale. La Fondation scientifique sur l'autisme s'en émeut également, Alison Singer, sa présidente.
Le simple fait que le gouvernement ressente le besoin de mener cette étude est dommageable. Cela va instiller le doute, en particulier chez les nouveaux parents, qui peuvent ne pas être au courant du consensus scientifique. Des parents renonceront à la vaccination et à la fin, des enfants mourront.
Donald Trump lui-même a répété à plusieurs reprises l'assertion fausse du lien entre vaccination et autisme. La communauté médicale explique que, quant à elle, l'augmentation du nombre de cas d'autisme aux États-Unis par une meilleure connaissance de la maladie et des outils de diagnostic plus efficaces.
Simon Rosé. Demain mardi, le footballeur Paul Pogba va pouvoir reprendre la compétition. Ce sera la fin de ses 18 mois de suspension pour dopage. Mais selon son entourage, le champion du monde s'entraîne déjà à 1000%. Il va quand même devoir trouver un nouveau club puisque son contrat avec la Juventus de Turin a été résilié en novembre dernier. RFI 22h10 à Paris.